BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Traditionnelle cérémonie du 14 juillet avec cette année un hommage appuyé au personnel soignant. C'était le souhait du chef de l'État, un hommage qui fait écho à la mobilisation populaire pendant la période de confinement. On s'en souvient, les applaudissements chaque soir à 20h et puis qui fait écho également à beaucoup d'autres initiatives, notamment celle du collectif Protège ton soignant. Céline Lazorte, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes fondatrice de Litchi et de MangoPay et vous avez participé quelques jours après le début du confinement, le 21 mars, à la création de cette cagnotte citoyenne sur Litchi pour venir en aide au personnel soignant. Le mouvement s'appelle Protège son soignant. Il a permis de lever 7,5 millions d'euros pour acheter,
exactement,
on va en parler, du matériel de protection. D'abord, comment est venue l'idée de cette mobilisation?
Alors, l'idée, elle est née dans l'esprit de Thomas Clausel, qui est entrepreneur dans la tech, mais surtout cancérologue de formation. Et puis, il a tout de suite vu l'ampleur de la crise arriver. Il était très sollicité par ses collègues qui étaient dans les services de réanimation. Et donc, il a eu cette idée de se dire, mais peut-être on pourrait utiliser l'agilité des entrepreneurs de la tech, et pas que de la tech, pour collecter de l'argent, acheter du matériel médical dans des besoins urgents et le livrer à des hôpitaux ou établissements de santé.
Beaucoup de personnalités ont rapidement rejoint le mouvement, directement ou indirectement, notamment Marion Cotillard, Zidane, Maître Gims, qui ont vendu des objets personnels.
Exactement.
Et les profits de ces ventes ont été reversés au collectif Protège ton soignant. C'est venu naturellement, cette mobilisation, ou est-ce qu'il a fallu activer des réseaux, négocier, convaincre?
Alors, très honnêtement, moi, c'est une expérience pour moi qui est du jamais vu. Il faut savoir, donc, effectivement, on a commencé à une petite dizaine. On était 130 bénévoles à la fin de la collecte. Comme vous le disiez, on a collecté presque 7,462,542 euros, pas loin. Et c'est effectivement le fruit à la fois de dons de particuliers sur la cagnotte solidaire, de dons d'entreprises et de fondations, et puis d'initiatives solidaires comme cette tombola ou une vente aux enchères. Il y a eu plus d'une centaine d'initiatives solidaires qui ont permis de collecter ces fonds.
La mobilisation des entreprises, souvent les plus gros moyens ont été débloqués par les plus grosses entreprises, ça paraît logique. Mais en termes de réactivité, souvent ce sont les start-up qui ont réagi les premières. Pourquoi? C'est dans leur ADN, c'est l'agilité des start-up?
Je pense qu'il y a effectivement une culture entrepreneuriale de voir un problème et de vouloir tout de suite le résoudre et adresser cette difficulté ou ce problème. Mais je trouve quand même qu'on a été aussi très soutenus par les grandes entreprises. En tout cas, le collectif a été, la cagnotte financée par beaucoup de grandes entreprises qui parfois ont pris des décisions de dons de plusieurs centaines de milliers d'euros en 24-48 heures. Donc c'est quand même du jamais vu. Je crois que c'était une crise sans précédent et qu'il fallait un effort collectif sans précédent.
On ne peut qu'encourager évidemment ce genre d'initiative. Néanmoins, est-ce que ça vous paraît pas un petit peu anormal ou choquant devoir pallier certains manquements de l'État? Ces fonds ont servi à acheter des masques, du gel hydroalcoolique. On se dit qu'a priori, c'était plutôt à l'État de le faire.
Alors, avec l'argent, on a acheté plus d'un million de masques, on a acheté des échographes, des respirateurs, des pousses-seringues, vidéolaryngoscopes. Enfin, je suis devenue experte en matériel
médical,
mais il y avait une trentaine de personnes qui s'occupaient, par exemple, que du sourcing. On n'a pas pallié à l'État. On a complété des besoins. Par exemple, notre agilité, elle a permis qu'un hôpital à Paris, en Ile-de-France ou en région, en Corse ou même à Mayotte, nous signifie un besoin urgent et qu'on y réponde parfois dans la journée, souvent la plupart du temps dans les 24 à 48 heures. Donc nous, notre force, elle était sur de petites quantités et de façon extrêmement rapide.
C'est important de le préciser quand même, l'aide a été déployée sur l'ensemble du territoire et pas uniquement en région parisienne.
400 établissements de santé et effectivement, là viennent de partir 23 palettes à Mayotte.
Vous êtes mobilisé évidemment aux côtés des soignants. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui, vous regardez le relâchement des comportements? On respecte moins les gestes barrières, notamment chez les jeunes. Ça vous inquiète, ça vous agace?
Alors, moi, je peux pas me mettre dans une position de juge, mais c'est vrai que ce qu'on a ressenti, en tout cas, durant cette crise, c'est beaucoup d'émotions de la part des soignants. Honnêtement, beaucoup de retours, de messages, d'emails, très émus d'être à leur côté. Et je crois que pour eux, il faut qu'on soit collectivement intelligents et dignes de ce qu'ils nous ont donné. Et effectivement, il faut respecter les gestes barrières. Mais c'est vrai que moi, la première, dans un contexte où on se sent respirer, on se dit c'est bon, c'est passé. Et non, effectivement, le virus est toujours là, il est transparent, mais il faut se protéger.
Justement, le risque d'une deuxième vague, c'est pas garanti, mais c'est loin d'être exclu. Ça vous inquiète?
ça m'inquiète comme tout Français qui n'a pas envie ni que son pays il soit de nouveau touché, d'un point de vue évidemment santé, mais aussi économique. Donc je crois qu'il faut qu'on soit ensemble plus fort que ce virus. Et les Français ont aussi montré leur capacité, je trouve, à très bien respecter les règles. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout parce qu'on se protège tous ensemble.
Le Ségur de la santé, cette période de consultation qui vient de s'achever pour la refonte de notre système de santé, va permettre notamment d'améliorer le salaire du personnel soignant, paramédicaux et aussi non médical, hein, personnel dans les hôpitaux. Une enveloppe de 7,6 milliards d'euros, le chiffre est quand même assez important, il permettra d'augmenter le salaire de 183 euros net mensuels en moyenne. D'abord un commentaire sur ce coup de pouce, ça semble cohérent quand on voit le soutien des Français pour le personnel soignant.
Je crois qu'effectivement, en tout cas de mon point de vue, et je ne sais pas s'il vaut quelque chose sur ce sujet-là en tout cas, mais il est à la hauteur de ce qui était attendu par le personnel soignant. Moi, j'y suis évidemment particulièrement sensible puisque je viens d'une famille de médecins qui ont dédié leur vie à l'hôpital et au service public. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis investie dans ce collectif. Et j'ai vu, effectivement, et encore, les médecins sont dans une situation plutôt confortable, mais tout
même
le personnel
si les médecins hospitaliers ont vu leur pouvoir d'achat diminuer
bien
fortement.
Sûr,
il ne faut pas toujours opposer les médecins au personnel paramédical.
Mais de façon collective, il fallait une rémunération à la hauteur de leurs engagements et de leurs sacrifices aussi quotidiens.
Ouais. Oui, alors est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Ça, c'est l'autre question. Jean Castex parle d'un moment historique pour le système de santé, mais ce coup de pouce financier va juste permettre de rattraper le retard. Il ne faut pas oublier que la France, même si c'est l'un des pays qui consacre le plus d'argent au système de santé, c'est aussi l'un des pays de l'OCDE où les soignants étaient les moins bien payé.
Bien sûr. Bah, vous avez tout résumé.
Non, mais je veux dire, est-ce qu'on aurait pu faire mieux?
Je ne sais pas. Honnêtement, si on peut toujours faire mieux. Après, je pense à un moment donné qu'il y a une poche qui est définie et que si on prend quelque part, on donne quelque part et inversement. Donc, je crois que c'est une première étape conséquente. J'espère qu'il y aura une autre revalorisation, effectivement, dans le temps, si c'est nécessaire.
Est-ce que les Français sont généreux? C'est pas la première impression qui se dégage hein, quand on se promène dans les rues de Paris. Mais vous avez un chiffre intéressant chez Litchi. Les cagnottes solidaires représentent environ 50 millions d'euros sur un total de 250 millions d'euros. C'est un peu plus de 20%, je crois. C'est peu, c'est beaucoup, 20%, je me rends pas compte.
Alors c'est en tout cas en très forte croissance. Effectivement, chaque année, Odoxa publie une étude sur la générosité des Français. Les Français sont généreux, mais les Français veulent savoir où vont leurs dons et à quoi ils vont être utilisés. Donc effectivement, les systèmes de façon générale, de cagnotte en ligne, de crowdfunding, permettent de comprendre exactement l'impact qu'on va avoir.
La cagnotte en ligne, c'est vraiment la solution. On avait l'habitude avant de faire des cadeaux et jamais réussir à se faire rembourser. Aujourd'hui, petite parenthèse, mais sur Litchi, les cagnottes servent à quoi?
Alors sur Litchi, je crois que les cagnottes, elles servent à tout. C'est un peu le reflet de la société. Donc effectivement, la crise du Covid, il y a eu beaucoup de cagnottes, je crois, qui ont été liées au Covid. Ça va être des événements solidaires, entre proches, avec des inconnus. C'est vraiment le reflet de la société.
Avec parfois des cagnottes un petit peu embarrassantes. On l'avait vu hein, au moment d'un boxeur qui avait frappé un policier. Il y avait une mobilisation pour le soutenir financièrement. On ne peut pas tout accepter?
Je crois encore une fois qu'elles sont le reflet de la société.
Avec ses excès.
Avec ses excès, parfois avec ses comportements exceptionnels. Le rôle de Litchi, il est effectivement d'appliquer la loi et de ne pas se substituer à elle.
J'aimerais qu'on parle de votre parcours, puisque vous incarnez vraiment l'entrepreneuriat. C'est aussi l'ADN de BFM Business, évidemment. Quel conseil vous donneriez à ceux qui ont été secoués par la crise et qui aujourd'hui hésitent avant de se lancer?
Alors, il se trouve que moi, j'ai créé effectivement Litchi dans un contexte de crise. Récemment, j'étais diplômée en juin 2008 et donc c'était vraiment le pire moment pour être diplômée, mais c'était un des meilleurs moments pour entreprendre. Et donc, j'encourage tous ceux qui ont une idée derrière la tête, qui ont une envie, mais qui n'osent pas passer le pas, de se lancer parce que c'est une vie forte d'apprentissage, très palpitante et donc qui peut aussi permettre de créer son emploi et créer les emplois des autres. Et ça, c'est quand même un très grand enrichissement, je crois.
Une période difficile, c'est pas forcément le pire moment. On a vu récemment des chiffres, justement, qui montraient que beaucoup de Français souhaitaient monter leur entreprise.
Oui. Mais je crois, au contraire, que ça peut être des bons moments. Parce que il peut y avoir des bonnes opportunités de marché, de services à créer, des bonnes opportunités pour recruter. Donc, c'est souvent de bons moments, les crises. Même si ça paraît un peu difficile à comprendre, une fois qu'on est lancé, on se rend compte qu'effectivement, on peut recruter plus facilement, trouver un prestataire plus facilement. Donc, ça peut être aussi de bonnes opportunités.
La peur de l'échec, souvent, c'est le frein principal.
L'échec, il fait partie de la vie. Moi, je pense qu'on passe notre vie à se tromper, à faire des erreurs, à vivre des échecs. Mais de temps en temps, parmi toutes ces erreurs et ces échecs, il y a des réussites. Et donc, il faut s'accrocher à elles et puis aller d'une réussite à une autre et considérer que les échecs sont des apprentissages.
Vous avez un autre engagement, c'est la représentation, la présence des femmes, la parité au-delà, même si on peut, dans certains secteurs, et notamment dans la technologie. Vous êtes derrière la création de Sista, alors expliquez-nous. Sista, c'est le mouvement.
Oui, alors Sista, en fait, est née d'une frustration qui est de voir qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes en termes de financement de leur entreprise. Alors, le sujet peut paraître un peu technique, mais en réalité, il est très important parce que nous, notre mission, c'est de faire émerger un collectif de leaders diversifiés, c'est-à-dire qui est, en fait, des leaders qui représentent finalement la société civile, tout simplement. Et donc, l'objectif de Sista, c'est de réduire les inégalités au financement parce que le financement, il est clé dans notre possibilité de créer une entreprise et de la développer. Donc on veut qu'il y ait des femmes et de la diversité partout, à tous les postes et toutes les responsabilités. Il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat, donc il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui aient des ambitions, des envies et qui puissent créer une entreprise.
On a l'impression que les choses ont beaucoup avancé en l'espace d'un an ou deux. C'est votre sentiment également ? Même s'il reste encore du chemin à parcourir.
En tout cas, une chose, et bon, c'est pas mon travail, c'est le travail du collectif de Sista, mais c'est que ce qui était acceptable n'est plus acceptable. C'est qu'aujourd'hui, parce qu'on a mis des chiffres sur le peu de nombre de femmes financées, aujourd'hui, c'est devenu inacceptable. Et donc, on a notamment créé la charte Sista, qui a été signée par plus de 80 fonds d'investissement, qui s'engagent à plus de mixité dans les entreprises qu'ils financent, dans les recrutements qu'ils font, parce qu'en fait, c'est toute une chaîne vertueuse. Il faut des femmes partout.
Merci beaucoup pour cette analyse et merci aussi d'avoir partagé votre expérience, Céline Lazort, fondatrice de Litchi et de MangoPay. On marque une pause, juste après on parlera politique avec une prise de parole du chef de l'État qui intervient avant le discours de politique générale du Premier ministre. Pourquoi est-ce seulement un hasard du calendrier? On en parlera avec Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Restez avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui lors de la traditionnelle interview du 14 juillet, interview au cours de laquelle il devrait dévoiler les grandes lignes du plan de relance économique, une prise de parole qui intervient aussi avant le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Jean Castex. On va en parler avec Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Cette prise de parole du chef de l'État qui intervient avant le discours de politique générale, c'est un hasard du calendrier ou est-ce qu'il y a, selon vous, un message politique ?
Il y a la volonté du président de la République de rappeler qu'il est le maître du jeu sous la Ve République. On a vu un président de la République dont, finalement, l'image et même l'autorité a été un peu dissipée durant la crise sanitaire par l'omniprésence d'un Premier ministre, Édouard Philippe, Premier ministre qui a par la suite démissionné. Donc il y a vraisemblablement la volonté d'Emmanuel Macron de rappeler que c'est lui qui, dans cette période très difficile que l'on aborde, où il va falloir traiter les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, qui est de fait le seul maître à bord.
Donc pour Emmanuel Macron, il affirme son autorité. En revanche, pour Jean Castex, on ne peut pas dire que ce soit une rampe de lancement très favorable. Il peut passer aux yeux de l'opinion pour un Premier ministre porte-serviette.
Oui, mais enfin, il faut relativiser. Vous savez quand même la logique des institutions de la Ve République signifie que la prééminence, de toute façon, c'est celle du chef de l'État, celle du président de la République. Le Premier ministre est là pour, certes, conduire et déterminer la politique de la nation, comme le rappelle l'article 20 de la Constitution. Il est le chef de la majorité et on peut imaginer que cet après-midi, enfin à 13h, le président de la République va lui fixer le cap, les grandes orientations de cette fin de mandat dont il a annoncé qu'il la voulait utile et que le Premier ministre viendrait par la suite décliner cette feuille de route en rappelant vraisemblablement, en tout cas en mettant en avant les éléments concrets de la feuille de route que le président de la République va certainement délivrer tout à l'heure à 13h.
Mais vous êtes un professionnel de la communication politique, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette question. Le fait que le chef de l'État présente les grandes lignes de la politique du gouvernement avant que le Premier ministre ne prononce son discours plus tard dans la semaine à l'Assemblée nationale, forcément ça va enlever de l'impact à ce discours de politique générale.
Oui, alors ceci dit, ce à quoi nous avons assisté durant toute cette période de crise sanitaire, et d'ailleurs ça a nui finalement au président de la République dans la réception de sa parole publique par l'opinion publique, c'est que le président de la République est souvent intervenu, a souvent fixé un certain nombre de principes qui parfois apparaissaient peu concrets d'ailleurs aux commentateurs et à une partie de l'opinion publique. Et le Premier ministre venait par la suite, de fait, préciser et donner du concret au discours du président de la République. Tout l'enjeu pour le président de la République cet après-midi, c'est de retrouver d'une certaine manière une capacité à être audible. Il a beaucoup parlé, il a banalisé sa parole, il est aujourd'hui en difficulté dans un certain nombre d'études d'opinion, il va falloir que cet après-midi, il soit audible, c'est-à-dire très concret dans les annonces qu'il va faire. Et en effet, bien évidemment, pour le Premier ministre, il s'agira ensuite de mettre en musique les propositions du président de la République.
Un mot peut-être sur le choix de Jean Castex. C'est un homme de dossier, un technicien qui a travaillé avec de grandes personnalités politiques, mais qui n'est pas connu du grand public. Est-ce que ça ne va pas être un frein pour réconcilier les Français avec la vie politique ?
On voit que le choix de Jean Castex est un choix qui obéit à une double logique. Il fallait à Matignon, mais c'était le cas d'ailleurs avec le précédent Premier ministre, un Premier ministre qui connaisse très bien l'administration, qui soit un professionnel de l'ingénierie de l'administration, et c'est le cas avec Jean Castex, qui a occupé plusieurs postes de responsabilité, à la fois comme secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy, mais aussi quand il était directeur de cabinet de Xavier Bertrand. Par ailleurs, il a été le monsieur déconfinement de cette séquence que nous venons de traverser. Mais en plus, il a une autre casquette, c'est que c'est un élu local, un élu d'une petite commune, 6000 habitants, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, cette France périphérique qui s'est révoltée au moment du mouvement des Gilets jaunes. Donc Jean Castex, il a au moins ces ressources-là qui sont importantes aux yeux vraisemblablement d'Emmanuel Macron. Mais tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, quel est-il en fin de compte ? C'est de nous expliquer pourquoi il s'est séparé d'Édouard Philippe. Quel est le sens de ce remaniement ? Pourquoi s'est-il séparé d'un Premier ministre qui semblait donner satisfaction, qui semblait d'ailleurs lui donner satisfaction à lui-même, en tant que président de la République, mais qui donnait également satisfaction à l'opinion publique, comme l'attestent les sondages ? Donc, quel est le sens de ce remaniement ? Pourquoi avoir changé de Premier ministre ? Ça, c'est une vraie question.
Mmh. On va parler justement de la deuxième phase de ce quinquennat. D'abord, un mot sur le casting de ce gouvernement, plutôt marqué à droite, avec à sa tête, vous l'avez dit, un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Est-ce que ça correspond forcément à la demande sociale et aussi environnementale qui semble se dessiner en sortie de crise, et notamment à travers le résultat des élections municipales ?
En tout cas, il est clair que Emmanuel Macron a décidé de donner des gages à la droite de sa majorité. Il l'avait déjà fait dès le début de son mandat en nommant un Premier ministre qui était un Premier ministre issu des rangs des Républicains, Édouard Philippe, mais qui était plutôt jupéiste. Là, en l'occurrence, il va puiser dans le vivier sarkozyste, quelqu'un qui manifestement ne renie pas ses origines politique, même si il n'en parle pas beaucoup depuis qu'il a été nommé à Matignon, mais il y a aujourd'hui indéniablement, quand on regarde quand même les études d'opinion, quand on regarde les sondages, quand on interroge les Français sur les valeurs qu'ils mettent en avant, des valeurs qui appartiennent plutôt à une culture politique de droite. Donc Emmanuel Macron fait aussi ce pari que le pays, malgré tout, reste majoritairement plutôt au centre-droit, voire à droite. D'où ce choix politique et d'où ce casting lié au remaniement. Le problème, en effet, pour Emmanuel Macron, c'est qu'il faut qu'il parvienne à, disons, continuer à faire vivre ce logiciel qui est le logiciel du en même temps, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas qu'il a été élu par une partie de la gauche et même une partie importante du centre-gauche. Donc il va falloir que, d'une certaine manière, il arrive dans l'exercice qui va être le sien et ensuite dans la suite du mandat à tenir les deux bouts de la chaîne. C'est une grande difficulté parce que, finalement, il y a des injonctions contradictoires de la part de l'opinion, des demandes de social, des demandes en matière d'environnement, mais également des demandes d'autorité, des demandes aussi qui viennent d'un certain nombre de secteurs qui ont été particulièrement, secoués par cette crise sanitaire, aussi de libéralisation de l'économie. Donc, tenir l'ensemble de ces éléments pour construire une politique qui soit une politique cohérente et qui puisse répondre aux différentes attentes de l'opinion publique, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Et en plus, ce qu'il faut signaler, c'est qu'on est à moins de 2 ans aujourd'hui de la fin du mandat. Emmanuel Macron a 2 enjeux essentiels. Le premier enjeu, c'est de colmater les brèches économiques et sociales qui sont directement issus de cette crise sanitaire. Ça va être notamment le plan de relance. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment il va financer ce plan de relance, parce que c'est une question essentielle. Et l'autre aspect, c'est que Emmanuel Macron, il a été élu, il ne faut jamais l'oublier, en 2017, sur l'idée que lui, il allait réformer la France, c'est-à-dire l'adapter à un certain nombre de grands standards internationaux. Mais pourra-t-il continuer à réformer dans les circonstances exceptionnelles que l'on traverse? Le dossier, par exemple, des retraites étant un des dossiers, à mon sens, les plus emblématiques de ce problème.
Justement, faut-il poursuivre les réformes ou les suspendre? C'est une question qui a beaucoup été commentée ces derniers jours. Suspendre ou annuler les réformes, ce serait évidemment renier sa feuille de route politique, vous venez de le dire, mais continuer comme si de rien n'était, ce serait donner l'impression d'un président qui n'écoute pas.
Oui, alors ça, c'est l'autre aspect de la politique et du mandat d'Emmanuel Macron, c'est la méthode. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être finalement dans une pratique du pouvoir qui était une pratique très verticale et finalement assez peu négociatrice. Il nous avait fait une promesse après le mouvement des Gilets jaunes de changement de méthode. Et en fait, on s'est aperçu que la méthode n'avait pas fondamentalement changé. Le dossier des retraites ayant été, de ce point de vue-là, un exemple de la difficulté pour Emmanuel Macron et pour sa majorité et pour son gouvernement à changer sa méthode. Aujourd'hui, la question à laquelle il est manifestement confronté, c'est de... justement, d'essayer, encore une fois, à 2 ans de la fin du mandat, de montrer qu'il est en capacité d'écouter. D'où, par exemple, ces appels du pied aux élus locaux, avec peut-être un nouvel acte de décentralisation.
Du coup, pour vous, l'acte 2 commence maintenant.
On est même plus à l'acte 2, on est à l'acte 3, mais l'acte 2, 4 aujourd'hui.
L'acte 2, vous le disiez, on l'attendait après la crise des Gilets jaunes, mais finalement, il n'a jamais vraiment eu lieu, cet acte 2. On n'a jamais eu de changement majeur dans la politique.
L'acte 2 n'a pas vraiment eu lieu pour des tas de raisons, parce que tout simplement, la crise aussi du Covid est venue percuter cette volonté de mettre en place un processus qui soit un processus de dialogue. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, la grande difficulté à laquelle il est confronté, c'est qu'il a très peu de temps. Il a très peu de temps. Il ne faut jamais oublier que, ne serait-ce qu'en termes de session parlementaire, il reste tout juste 15 mois de calendrier parlementaire, avec qui plus est, on n'en parle pas suffisamment, mais des élections régionales et des élections départementales en 2021. Donc on voit bien qu'il est aujourd'hui dans une séquence qui est extrêmement stressée.
Vous pensez qu'il est condamné à traîner cette image de président des riches jusqu'à la fin de son mandat, ou est-ce qu'il peut encore inverser cette tendance, corriger cette image?
C'est très difficile, parce que si vous voulez, il y a des traits dominants qui s'impose dans l'opinion publique. On l'avait vu d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy de la même manière en 2007, qui lui aussi avait quand même quelque part traîné cette image de président des riches, notamment avec le fameux bouclier fiscal, entre autres. Là, avec Emmanuel Macron, on est à peu près exactement dans la même, je dirais, même dans la même tendance. La difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, en effet, c'est de changer d'image. Mais le pari qu'il fait, lui, c'est de, d'une certaine manière, de pouvoir continuer à essayer de trianguler à droite parce qu'il considère vraisemblablement que le pays aujourd'hui est quand même majoritairement à droite et que c'est de ce côté-là que sa zone de chalandise électorale est la plus sûre. Donc on peut penser que le remaniement auquel il a procédé ces derniers jours obéit à cette stratégie.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur du livre Le coup de com' permanent.